Donc, je ne vais pas faire une erreur. J'ai demandé à Étienne de venir parce que tout le week-end, je l'ai appelé Daniel. Donc... Tu peux venir, Étienne, je vais prier pour toi. Seigneur, je te remercie vraiment pour cet homme selon ton cœur, Seigneur. Je te demande de le bénir vraiment, de l'encourager aussi, de mettre ta main sur lui. Et surtout aussi de nous donner, nous, d'écouter, d'entendre ce que tu as mis dans son cœur, de nous partager ce matin. Merci Seigneur, loué sois-tu. Amen.
Amen. Voilà, chers amis, vous m'entendez apparemment. Je suis très heureux d'être parmi vous, de me retrouver dans ce beau lieu dans lequel je suis venu pour l'inauguration. Et ce sont des bons souvenirs. Et je me réjouis que vous rayonnez, que ce soit un peu un phare dans cette région, que cette maison de l'espérance. Je vous apporte les salutations de l'Institut biblique de Nogent et toute l'équipe qui forme cet institut. Alors vous savez, quand vous êtes professeur dans un institut biblique, vous avez trois privilèges. En tout cas au moins. Le premier, c'est qu'on commence les cours par la prière. Quand moi-même j'ai été étudiant à l'école biblique, la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait le prof là? Parce que j'étais encore dans mon système scolaire bien français. J'étais en Suisse pour l'école biblique. Et puis le deuxième, c'est qu'au fond, la matière qu'on enseigne, c'est quand même quelque chose de formidable. La Bible et tout ce qui autour de la Bible permet à un homme, à une femme, à un jeune ou à un moins jeune, de se préparer au service de Dieu. Le troisième, alors les professeurs qui sont dans la salle comprendront, c'est qu'on fait de la formation d'adultes. C'est-à-dire des gens qui ont envie d'apprendre. Et vous savez, la motivation, ça change tout. À tel point que nous avons des étudiants qui viennent à l'Institut biblique, qui n'ont connu que des échecs sur le plan scolaire, mais parce qu'ils ont la motivation qui leur vient du Seigneur, alors tout d'un coup... Non sans mal, ils réussissent. Voilà les quelques-unes des joies du ministère que j'ai le plaisir de mener. J'aimerais ce matin, frères et sœurs, vous parler d'une promesse ou d'une parole que Dieu a donnée à Paul et qui m'a été donnée dans mon propre ministère quand j'étais pasteur dans le sud-ouest de la France et où je me décourageais. Et écoutez cette parole, ensuite je vous donnerai la référence. Puis on lira un peu plus le texte autour de cette parole. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il, parle et ne te tais pas. Je suis avec toi, personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Ce texte se trouve dans le livre des Actes au chapitre 18 et je vous invite à lire à partir du verset 4. Voici ce que dit l'Écriture. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient. Aussi, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Il partit de là et se rendit chez un certain Titus Justus. C'était un non-juif qui adorait Dieu et sa maison était à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Alors Paul se fixa à Corinthe, et pendant un an et demi, il y enseigna la parole de Dieu. C'est peut-être l'ancêtre de l'Institut biblique de Nogent. Même pas peur. Vous connaissez tous cette expression de défi que lance le petit garçon à son grand frère qui essaye de l'effrayer. Même pas peur. Mais en général, on dit ça pas tout à fait rassuré. Un peu avec la boule au ventre, mais avec fierté. Le petit garçon maîtrise sa frayeur et s'efforce d'être aussi fort que son papa. Dans notre récit, c'est l'inverse. C'est le fort, c'est le Seigneur lui-même qui dit à son serviteur, « N'aie pas peur. » Et il ne s'adresse pas à un petit garçon, pas même à un tout jeune converti, mais à, franchement, un homme de caractère, un apôtre qui a maintes fois montré son courage. Il faut donc croire, mes amis, que même si le texte ne le laisse pas penser, Paul pouvait avoir peur et se décourager dans l'exercice du ministère apostolique. Alors il faut dire qu'à sa décharge, les choses ont parfois mal tourné, vous savez. À Lystre, la foule passe en quelques instants de la quasi-adoration que les apôtres poussent avec grande difficulté à la lapidation et laisse Paul pour mort. De quoi redouter les injures des Juifs à Corinthe, redouter que ces injures ne gagnent la foule et qu'elles ne se retournent contre lui. Voyez-vous, mes amis, Paul, le grand Paul, n'était pas en acier inoxydable. Il a connu la peur. Il a eu besoin d'encouragement de la part du Seigneur pour persévérer dans sa tâche. Au fond, c'était un homme de la même nature que nous, de telle sorte que s'il a eu besoin de l'encouragement du Seigneur, nous en avons encore plus besoin pour persévérer dans notre rôle de témoin. Je vous invite à réfléchir avec moi à trois affirmations données par le Seigneur à l'apôtre Paul dans cette vision. Je suis avec toi, jamais tout seul. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, jamais sans assistance. Il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient, jamais en vain. La première affirmation de ce passage qui suit le triple impératif « N'aie pas peur, parle, ne te tais pas » est une promesse, celle de la présence de Dieu assurée à Paul. « Je suis avec toi ». Alors ça peut paraître banal à première vue, ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement courant dans la Bible. D'après moi, c'est l'une des promesses les plus fréquentes dans l'Écriture. Pensez à Jacob. Jacob qui fuit Canaan après avoir trompé son frère Ésaü et à qui l'Éternel se révèle à Bethel en lui disant « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ferai revenir dans cette région. » Pensez à Moïse au buisson ardent où il entend l'Éternel lui dire d'aller libérer son peuple de la main du Pharaon. Ça ne plaît pas beaucoup à Moïse, il est effrayé. Qui suis-je, moi, pour aller parler au Pharaon ? Et Dieu lui répond, « Sache que je serai avec toi. » Et pensez à Josué qui doit succéder au grand Moïse pour mener la conquête du pays promis et à qui Dieu fait cette promesse magnifique. « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Mais mes amis, vous connaissez probablement assez les Écritures pour savoir qu'aucune de ces promesses non seulement n'a été vaine, mais que ça ne veut pas dire que ça a été simple. Alors, ce n'a pas été vain parce que Jacob a été ramené par Dieu auprès des siens après de longues années en exil. Il a donné à Moïse la capacité de faire des prodiges, la force d'âme pour affronter le plus puissant monarque du pays le plus puissant de son époque et la détermination pour conduire le peuple hors d'Égypte. Il a qualifié Josué pour le combat en lui donnant la foi nécessaire pour voir la ruine de Jéricho comme la puissance militaire pour battre la coalition des différents rois qui voulaient punir par exemple Gabaon. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez noté avec moi que si la présence de Dieu garantit la victoire, elle ne garantit pas la facilité. Et il ne faut pas se méprendre sur cet aspect. Vous savez, Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Il a eu la hanche déboîtée avant de pouvoir retrouver les siens. Moïse s'est heurté à un pharaon dur de cœur et à un peuple ingrat. Quant à Josué, après une victoire éclatante à Jéricho, il a connu un revers cuisant à Aï, juste derrière. Au fond, la promesse de la présence de Dieu, elle est admirablement résumée dans le texte qu'a lu tout à l'heure Rolf. « Ne sois pas affrayé, car je suis avec toi. » Parole d'Ésaïe. « Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr. » Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Cette belle promesse me fait penser à cette parole d'enfant que je trouve magnifique. Lucien Acade, secrétaire général autrefois de l'Alliance biblique du Liban pendant la guerre, pour aller au culte, passer sous les bombes. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vécu ça, hein. Il racontait qu'ils entendaient siffler les bombes. Et alors il s'est tourné vers son enfant, son petit garçon, et lui a dit, parce qu'il le sentait paisible, il dit, mais tu n'as pas peur. Savez-vous ce que son garçon lui a répondu? Non, papa, parce que tu tiens ma main. Cet enfant ne savait pas encore que son père était mortel. Mais la promesse que nous avons, et c'est toute la différence, c'est celle non pas d'un père mortel, mais du Père céleste. Et il nous tient dans sa main. Il est à la fois éternel et tout-puissant. Mais vous me direz, mais nous ne sommes ni Jacob, ni Moïse, ni Josué, ni Paul. Pouvons-nous prendre pour nous les promesses adressées à ces héros de la foi? Mais oui. Oui, mes amis, parce que d'abord, les héros de la foi ne sont pas des surhommes. Ce sont des hommes et des femmes pécheurs, touchés par la grâce de Dieu et dont le seul mérite a été de croire envers et contre tout que Dieu accomplirait ce qu'il promet, même quand il ne pouvait pas le voir. Oui, ensuite, parce que la promesse qui leur a été faite nous a été adressée par Jésus lorsqu'avant de quitter cette terre, il a envoyé ses disciples par toute la terre pour faire des disciples en disant « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et oui, enfin, et c'est probablement la plus belle des choses, Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé son esprit lors de la Pentecôte, et chose incroyable, le Dieu Tout-Puissant habite en nos cœurs. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Yes. C'est incroyable, cet esprit qui fait de nous des fils adoptifs, qui nous permet de dire au Dieu Tout-Puissant, Abba, Père. Cet esprit qui vient nous aider dans notre faiblesse et qui intercède en gémissant d'une manière inexprimable quand nous ne savons pas quoi demander dans la prière. Ça vous arrive? Il m'est arrivé de ne pas savoir quoi dire à Dieu, de ne pas avoir la force de dire quoi que ce soit et d'être rassuré parce que le Saint-Esprit qui habite en moi intercède Alors, qu'est-ce que cela change concrètement? À vrai dire, tout, mes amis. Les montagnes peuvent chanceler, les collines peuvent s'éloigner, la tempête se déchaîner, les hommes nous injurier, la maladie nous affaiblir et même la mort nous prendre. Nous ne sommes plus jamais seuls. Comme le dit le vieux cantique, « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. » Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. À la promesse de sa présence, Jésus ajoute celle de son assistance ou de sa protection. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. On pourrait dire, c'est un peu la même chose. Je te promets ma présence, mais je vais aussi te protéger. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'apôtre Paul sait ce qu'est la persécution parce qu'il l'a subie. Et il l'a même d'abord pratiqué contre les chrétiens. Et au fond, Jésus veut l'assurer que la souffrance et la mort ne sont pas au bout du chemin, en tout cas pas à Corinthe, pas à ce moment-là de son ministère. Et je discerne dans cette promesse trois vérités tellement bienfaisantes. Jésus a le pouvoir de le protéger. Vous savez, assurer un proche éprouvé de sa présence, c'est déjà exigeant, mais c'est possible. D'ailleurs, messieurs, c'est bien souvent ce qu'attend votre épouse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand elle me dit quelque chose, j'ai toujours envie de trouver une solution pratique. Et très souvent, elle me dit, mais non, ce que j'attends, c'est que tu m'écoutes. D'ailleurs, mon expérience pastorale me laisse penser que nous avons plus besoin de comprendre, plutôt d'être compris que de comprendre. D'être compris par Dieu et par nos proches que de comprendre ce qui nous arrive. Vous savez, Job aurait probablement préféré des amis qui lui disent « je te comprends » que de lui dire « mais comprends ce qui t'arrive, tu es pécheur ». En ce qui nous concerne, face à l'épreuve, à la maladie, face aux risques que nos enfants courent en faisant leurs propres expériences, une fois partis de la maison, nous n'avons que notre présence et notre écoute à offrir. Il n'en va pas ainsi du Seigneur, à qui tout pouvoir a été donné sur le ciel et sur la terre. Lui peut effectivement protéger son enfant des coups les plus rudes. Il peut le délivrer de la main des méchants. Il peut le relever de son lit de maladie. Et il fait même une promesse particulière à ceux qui se retrouvent devant les tribunaux. Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez. Ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Mes amis, j'ai bien peur qu'en l'absence d'opposition acharnée, nous n'en venions à sous-estimer le pouvoir du Seigneur pour nous protéger, pour faire taire les moqueurs et changer les maladresses de notre témoignage en armes puissantes pour convaincre nos interlocuteurs de péché, de justice et de jugement. Laissez-moi vous raconter quelques instants une histoire qui s'est passée très loin d'ici, au Népal. En 1981, alors le nom ne vous dira pas grand-chose, surtout qu'il ne ressemble très peu à nos noms, Lok Bahadur Tamang, a été l'un des tout premiers prédicateurs chrétiens de ce pays. Et en 1981, il s'est présenté spontanément au tribunal du district de sa région, parce que 7 de ses frères avaient été emportés, enfermés suite à une razzia de la police. Et il est venu avec les titres de propriété de sa terre, de ses terres, en espérant les donner au juge pour qu'en échange, il libère ses frères. Le problème, c'est que le juge avait sur sa table, écoutez bien, 111 rapports correspondant à autant de plaintes pour activités chrétiennes illégales contre ce prédicateur. Donc, quand le juge a vu le nom de celui qui s'adressait à lui, la tournure a changé. Il dit « Ah, mais vous êtes le prédicateur chrétien contre lequel j'ai tellement de plaintes !» Alors là, Logba Durtamang, qui s'y attendait quand même un peu, s'est demandé comment il allait faire. Il s'est souvenu de cette promesse. « Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. » Le juge l'a laissé parler. Il lui a dit « Écoutez, vous avez donné un papier à l'entrée, au geôlier. Vous m'avez donné un papier. Si l'un de nous deux signe ce papier, je n'ai pas le choix. Je dois vous mettre en prison. » Et puis il dit, le juge lui a dit, et moi ça m'étonnerait que le geôlier, connaissant votre nom, ne vous ait pas déjà, n'ait pas déjà signé votre enfermement. À votre avis? Eh bien, étonnamment, le geôlier n'avait pas signé le papier. Et le juge a relâché Logba Durtamang. Mieux encore, 2 mois plus tard, il a obtenu la libération de ses 7 frères sans devoir se séparer de sa terre. Et vous savez pourquoi? D'abord parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait, mais parce que ce juge était persuadé que ce prédicateur était bourré aux as par les Américains. Et quand il a vu un homme tout maigre, en guenille. Et tout d'un coup, il a pris conscience de toutes les médisances qu'on disait contre lui. Jésus a le pouvoir de protéger. Il a le souci de l'encourager. Paul, personne ne pourra s'attaquer à toi. Il sait ce que l'apôtre a déjà souffert à cause de son nom. Il est sensible à l'humanité, à la fragilité, aux craintes qui peuvent l'habiter. Vous savez, être laissé pour mort suite à une lapidation, ça doit être une expérience traumatisante. Et il ne faudrait pas croire que parce qu'on appartient au Seigneur et qu'on le sert, tout ça nous passe comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ce n'est pas vrai. Pensez à Élie au Mont Carmel, si pris dans ce combat contre Baal, qu'il en déprime le lendemain au point de vouloir mourir. Mais souvenez-vous, mes frères et sœurs, quand vous êtes éprouvés de cette parole, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Dernière chose, Jésus ne lui cache pas la vérité. Dieu ne dit pas « C'est bon, Paul, tu verras, fini les problèmes. » Non. Il sait que Paul subira d'autres attaques. Il ne dit pas « Personne ne pourra t'attaquer ». Il dit « Quand quelqu'un t'attaquera, je serai avec toi. Je prendrai soin de toi. » Vous savez, Jésus est vrai avec ses disciples. Ce sont les prédicateurs qui parfois simplifient à l'outrance les choses. Jésus n'a jamais promis que la vie chrétienne serait un long fleuve tranquille. Mais il a promis que sa présence ne nous ferait jamais défaut. C'est toute la différence. Enfin, je termine par cette 3e affirmation du passage. Il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Elle est à la fois plus lourde de sens et plus énigmatique sur le plan doctrinal que les 2 premières. Ce n'est plus seulement la promesse de sa présence, ni l'assurance de sa protection, mais la certitude de son intervention en faveur des perdus. Jamais tout seul, jamais sans assistance et jamais en vain. Comment comprendre « il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient » ? Est-ce que c'est une parole prophétique qui voit à l'avance la réalité spirituelle ? Mieux, est-ce que ce n'est pas une parole divine qui décrète la réalité qui va survenir ? Pour moi, je ne peux pas croire que Jésus, que le Tout-Puissant, se contente de voir à l'avance ce que les hommes vont faire, comme s'il dépendait de ce que les hommes vont faire. Moi, je crois que Dieu décrète même si c'est énigmatique, même si c'est mystérieux, il décrète le salut. Et du coup, il peut dire avec assurance, il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Cela veut dire que même si nous ne le voyons pas, Dieu est à l'œuvre dans les cœurs et que la puissance de son salut est si certaine qu'il peut déjà vous dire qu'il y a dans le Jura un peuple rassemblé que vous ne voyez pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai reçu alors que j'étais pasteur de deux petites églises dans la région de Toulouse et que je me décourageais devant le peu de résultats de mon ministère. Et ce fut pour moi un encouragement formidable à persévérer. Mes amis, la réalité divine, aussi invisible puisse-t-elle être par moment, est plus certaine que la réalité visible que je perçois par mes sens. Et pour moi, ça me parle de deux choses. C'est la puissance du salut. Gardez confiance, mes amis. Gardons confiance dans la puissance d'attrait, de transformation, d'orientation, de guérison que le salut de Dieu exerce. Si le casseur est devenu apôtre, vous savez, c'est un auteur qui a appelé Paul le casseur devenu apôtre. S'il a pu faire ça, si l'un des brigands sur la croix a pu entrer à l'heure même au paradis, si un meurtrier dans la prison d'Angers a été touché par le Seigneur parce que le frère de la dame qu'il avait tuée lui a dit à l'aumônier, mon collègue, va lui parler de Jésus et dis-lui que je lui pardonne. À bien plus forte raison, nos voisins, les membres de nos familles, les jeunes de nos églises et leurs amis. Mais vous savez, il y a une réalité qu'il faut apprendre. Il y a beaucoup de choses dans la vie avec Dieu, il faut la croire pour la voir. Et nous sommes habitués, en hommes et en femmes pécheurs, nous voulons voir pour croire. La deuxième chose que m'apprend cette dernière promesse, c'est que la souveraineté de Dieu est entière. Rien n'échappe à son contrôle. Et vous savez, c'est extrêmement reposant quand vous avez un ministère. Dieu était là avant que j'arrive. Il ne faudrait pas se croire un peu trop indispensable. Hein. Dieu était là. Il n'a pas attendu la maison de l'espérance pour faire des choses. Et quand vous ne serez plus là, Dieu sera encore là. Alors la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas est-ce que Dieu fera son travail ? Parce qu'il le fera. C'est la question de savoir s'il le fera avec vous ou sans vous. Si vous serez des collaborateurs obéissants ou simplement des rebelles qui lui compliquent la tâche. C'est la vraie question. Il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Je vous invite à vous saisir de cette parole comme une promesse pour cette région que vous avez à cœur. Pour que la maison de l'espérance porte bien son nom, pour que la vocation qu'elle a d'être lumière dans un coin de ténèbres, un lieu de refuge où les perdus trouvent la vie éternelle, soit effectif. Mais je vous invite aussi à prendre cette promesse pour vous et à vivre dans la certitude bienfaisante de la grâce. Là où vous êtes, le Seigneur agit. Ouvertement, secrètement, mais il agit. Demain, le Seigneur créera encore des occasions pour que vous soyez ses témoins. N'ayez pas peur. Parlez. Parlez de ce qu'il a fait pour vous. Parlez de ce qu'il veut faire pour votre interlocuteur. Quand je tenais le marché, le stand biblique au marché, j'avais souvent les dames qui le tenaient avec moi qui venaient me dire « Pasteur, il faut que vous parliez à un tel, parce que vous savez quoi dire. » Mais j'ai dit, mais non. Parce que ce que vous avez à dire, c'est ce que Jésus a fait dans votre vie. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la théologie. Racontez ce que Dieu a fait pour vous. Et mes amis, si la crainte est là, si le doute vous saisit, et ça nous arrive parfois, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. jamais, que vous n'êtes jamais sans assistance et que ce n'est jamais en vain que vous parlez du Seigneur, que son esprit vous donne un zèle renouvelé pour dire ses bontés dans un monde qui se perd. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es un Dieu tout-puissant, qui nous a fait un cadeau incommensurable, celui d'habiter en nos cœurs par l'Esprit. Nous voulons être entre tes mains des outils de salut, des outils malléables. Renouvelle notre zèle, notre joie pour le faire. Et quand les fruits tardent, accorde-nous la persévérance. Accorde-nous de croire que, de façon souterraine, tu agis. Et que si ce n'est pas nous, d'autres récolteront les fruits. Bénis la maison de l'espérance, mes frères et mes sœurs rassemblés ici, et tout le réseau des églises Jura-Bresse-Mâcon. Que ta joie, que ton zèle les habite. Et fasse d'eux des phares dans ce coin de France. Au nom de Jésus.